Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette fabrique. Une fabrique 100% féminine ce soir avec le retour d'une ancienne formée par le maître de la radio, the master of la radio, Benoît Boubou Bouscarel. Elle vous avait manqué, elle nous avait manqué, elle est avec nous, Anaïs, bonjour.
Bonjour, vous aussi vous m'aviez manqué.
Et comme c'est une fabrique 100% féminine et qu'on est des femmes libres, pas de thématique à cette émission. À part le fait que nous allons parler de projets portés par des femmes, avec des femmes, mais pas que pour les femmes. J'entends déjà le standard de Radio B exploser sous les appels de nos amis auditeurs. Rassurez-vous, cette émission est aussi pour vous, messieurs. Anaïs, tu nous parleras du spectacle Dévaste-moi d'Emmanuel Laborie et je vous présenterai le Zoom, sa directrice Aurélie Marpeau et le spectacle de la clown Hélène Ventura.
Et bien sûr, le point agenda.
Anaïs, tu avais très envie de revenir sur nos ondes pour nous présenter un spectacle coup de cœur.
En effet, Élodie, le 8 mars dernier, je suis allée au théâtre de Mâcon voir le spectacle « Dévaste-moi ». En fait, je suis allée le revoir. Je l'avais déjà vu en novembre à Lyon au théâtre de la Croix-Rousse, mais j'ai tellement aimé que j'y suis retournée. Mais de quoi s'agit-il ? « Dévaste-moi » est un spectacle de chansigne. Vous vous demandez peut-être ce qu'est le chansigne. Eh bien, ce sont des chansons en langue des signes. C'est donc un concert. Et pour celui-ci, il y a une chansigneuse, Emmanuel Laborie, et un groupe, The Delano Orchestra. Emmanuel Laborie, ça vous dit peut-être quelque chose. Elle est comédienne et auteure, et elle est sourde. Elle a notamment reçu le Molière de la Révélation théâtrale en 1993 pour la pièce « Les enfants du silence ». The Delano Orchestra est un groupe de rock indépendant de Clermont-Ferrand composé d'un violoncelliste, un bassiste, un guitariste, un batteur et un trompettiste. Alors vous vous dites peut-être que c'est un peu bizarre, un concert en langue des signes, ça s'adresse à qui ? Pour y comprendre quoi ? Eh bien en fait, ça s'adresse à tout le monde, aux sourds, aux malentendants et aux entendants, qu'ils comprennent ou non la langue des signes. Alors pour les sourds, oui, ils n'entendent pas la musique, mais de toute façon, le sonore ne fait pas partie de leur univers, mais ils peuvent tout de même ressentir des vibrations. Pour les entendants qui ne comprennent pas la langue des signes, une grande partie des paroles s'affiche sur un écran en fond de scène et de toute façon, vous vous laissez vite embarquer par la poésie des gestes. Alors venons-en au spectacle lui-même. Je dis bien spectacle et non concert, car comme le dit Emmanuel Laborie, il y a une vraie écriture scénographique et dramaturgique. Il y a aussi tout un jeu de costumes et il y a également un vrai parti pris et un engagement dans le choix des textes. Il y a une vingtaine de chansons mises en scène et quelques interventions des musiciens dans la scénographie. Toutes les chansons sont des reprises, mais des styles très variés. Le spectacle commence avec « L'amour est un enfant rebelle », extrait de Carmen, l'opéra de Bizet. Ça enchaîne avec « Gossip », ça passe par Bachung, Amy Winehouse, Léo Ferré, Assaf Avidan, Brigitte Fontaine, deux fois dont le « Dévaste-moi » qui donne le titre au spectacle. Parfois, Emmanuel Laborie prend la parole portée par son interprète. Elle a beaucoup d'humour, elle décrit des situations très drôles en lien avec sa surdité qui peut être très arrangeante parfois, comme par exemple quand son compagnon ronfle la nuit, elle ne l'entend pas. Quand ses enfants lui réclament des Kinder Bueno, elle ne l'entend pas, elle ne les entend pas. Quand le voisin met la musique à fond, elle ne l'entend pas non plus. Mais elle ne se contente pas de cette légèreté, elle enchaîne avec d'autres situations bien différentes, comme par exemple un homme dans la rue la siffle, elle n'entend pas. Quand un homme toujours dans la rue la traite de salope, elle n'entend pas. Et le fil rouge du spectacle est la condition des femmes. Elle évoque le rôle de la bonne épouse avec la chanson « Infidèle » d'Evelyne Gallet, la non-évidence de la maternité avec « Non, tu n'as pas de nom » d'Anne Sylvestre. Elle évoque aussi la religion qui a bien pris soin de laisser les femmes coincées entre la mère et la putain. Mais il n'y a pas que ces sujets difficiles. Il y a à nouveau de l'humour en parlant des difficultés de la ménopause avec le tango de la ménopause de Michel Bernier. Aussi de l'empowerment avec « Johnny fais-moi mal » écrit par Boris Vian. Un mélange des deux chansons assez cocasses « Un jour mon prince viendra et je t'aime moi non plus » de Gainsbourg. I Love to Love You Baby de Donna Summer, ou encore mon petit coup de cœur de la soirée que je ne connaissais pas, Masturbation Blues par Candy Kane, qu'on écoutera tout à l'heure. Et cette chanson, elle dit I've got the masturbation blues, it's a game you can't lose, ce qui veut dire le blues de la masturbation, un jeu auquel tu ne peux pas perdre. Vous êtes bien sur Radio B comme blues. Un des moments forts du spectacle, à la fin, les musiciens se taisent et tendent le micro à Emmanuel Laborie, qui se met à signer la chanson « Des vastes mois » de Brigitte Fontaine. Et dans le micro passent les sons de sa respiration, les bruits de ses mains entre elles ou sur son corps, le tout agrémenté de réverbérations. Rien que d'y penser, j'en ai encore la chair de poule.
Dévaste-moi, essouffle-moi, envahis-moi, épille-moi, dépense-moi, gaspille-moi. Saccage-moi, dilapide-moi, lapide-moi, érape-moi, liquide-moi, émiette-moi. Ravage-moi et presse-moi, et puis broie-moi, et puis noie-moi, et puis bois-moi, et caille-moi. Colonise-moi, piétine-moi, déglutis-moi, extermine-moi, ravage-moi, délabre-moi. Ratisse-moi, corrode-moi, démantèle-moi, désintègre-moi, massacre-moi, écrabouille-moi.
Mais c'est qu'il le ferait, la brute!
À l'issue du spectacle, Emmanuel Laborie et deux des musiciens répondaient aux questions du public et j'ai pu poser la mienne en pensant à l'émission d'aujourd'hui. J'ai demandé à Emmanuel Laborie quel était son chansigne préféré et elle m'a répondu « celle de mon oncle », enfin celui du coup. Pour l'anecdote qu'elle raconte dans le spectacle, dans les repas de famille, enfant, elle s'ennuyait ferme au moment où tout le monde chantait. Un jour, son oncle l'a assise à côté de lui et lui a fait mordre la tête de sa guitare et elle raconte que les vibrations lui ont procuré des sensations et des émotions inédites et incroyables et elle n'a pas lâché la guitare de toute la chanson. Et cet oncle a écrit pour elle les paroles d'une chanson. Elle les a données au groupe pour qu'il crée la musique. Très émouvant, je vous en doutez. C'est donc un spectacle drôle, beau, émouvant, engagé, d'une grande qualité, que ce soit au niveau des interprètes ou de la scénographie. Et finalement, le fait que ce soit un spectacle dans une langue étrangère, oui, c'est bien ça, eh bien, on ne s'en rend même pas compte, que du plaisir. Et quand j'en suis sortie, les deux fois, je me suis dit « Waouh, ce spectacle est vraiment excellent à tout point de vue » et le public avait l'air de mon avis. Et du coup, je me suis renseignée pour les prochain spectacle près de chez nous, pour moi, pour vous, on verra, on pourra peut-être y aller ensemble. Alors il y a le 2 et 3 avril, c'est très bientôt, à Lons, au Théâtre Les Scènes du Jura, et aussi le 25 mai à Genève, au Théâtre du Grütli. Je vous propose également une pièce de théâtre bilingue, français, langue des signes, à Lyon, le 28 juin. Je ne l'ai pas vue, mais c'est proposé par IVT, International Visual Théâtre, la référence en France en la matière. Vous trouverez les informations sur Internet auprès de la compagnie lyonnaise On Off. Et puis, si vous êtes curieux et curieuse de la langue des signes et de la culture sourde, parce que oui, il y a une culture sourde, je vous invite à regarder l'émission de télé une fois n'est pas coutume, qui s'intitule « L'œil et la main », diffusée les lundis matins sur France 5 et toutes les anciennes émissions des années précédentes sont disponibles en Ripley.
Merci Anaïs. Vraiment, ça donne très, très envie de voir ce spectacle. Pourquoi pas imaginer qu'il sera dans la programmation du Théâtre de Bourg l'année prochaine. Et puis, ça donne aussi envie de se plonger dans la langue des signes. Moi, j'ai vu qu'au centre social L'Agora, à Pérona, il y avait des initiations pour les tout-petits. A priori, c'est un très bon outil pour communiquer avec les enfants quand ils n'ont pas encore le langage.
C'est ça, ils arrivent à s'exprimer avant de parler. Et c'est assez super pour les parents et les enfants.
Et ça permet d'inclure une partie de la population qui jusque-là était très peu représentée, que ce soit sur les scènes ou même dans le milieu de la musique. Pour le coup, là, c'est vraiment, on l'a entendu, un spectacle musical.
Oui.
On n'a pas du tout à imaginer la musique par des sourds. Enfin, ça fait un peu le comble, quoi.
Mais ouais, c'est ça. Mais comme je vous dis, une fois que vous y êtes, on oublie qu'il y a cette soi-disant barrière.
On reste dans l'ambiance du spectacle avec ton coup de cœur.
Ah bah oui, Masturbation Blues par Carole Kane.
Vous êtes toujours sur Radio B dans la fabrique de la culture. Aurélie Marpeau est la directrice du Zoom. Je l'ai rencontrée pour parler de cette structure dédiée à l'image et du spectacle de la clown Hélène Ventura. Vous l'entendrez aussi dans cette interview. Aurélie Marpeau, vous êtes directrice du Zoom. Pour commencer, on va revenir sur ce lieu. C'est quoi le Zoom ?
Bonjour Élodie. Le Zoom, eh bien, c'est un lieu de résidence artistique pour professionnels du spectacle vivant et aussi un lieu qui a pour mission de défendre l'image en tout genre et tout spécialement le court-métrage. C'est la 7e saison.
Avec une saison un petit peu modifiée, des changements pour cette nouvelle année qui
oui,
démarre.
Un agenda culturel de janvier à décembre.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette décision ?
Eh bien, je pense que l'idée aussi de faire un agenda type pour que le programme soit aussi utilisé pour la vie de tous les jours et mettre ses rendez-vous autres que ceux des rendez-vous du Zoom. Le fait aussi que, je ne sais pas, une année, 2019, j'avais envie aussi qu'il y ait un symbolisme avec les années qui passent et pas forcément sur la saison culturelle, sur deux années. Et puis c'était un test. Alors après, on va voir. Les gens vont nous faire des retours. On va voir comment nous on fait notre année. Mais en tout cas, ça nous a permis, en fait, ça nous permet en tout cas avec l'équipe de voir de janvier à décembre et de voir l'année au lieu de subir l'année ou les deux années. Là, on sent l'année qui est en train de passer et puis d'anticiper.
Et si on se concentre à nouveau sur l'image et plus particulièrement sur le cinéma, il y a des rendez-vous réguliers avec les apéros du vendredi. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, les apéros ciné, les cours du vendredi, 1h15 de diffusion, 6 à 8 courts-métrages. Les gens découvrent, voilà, sur l'année, on a entre 25 et 28 vendredis. On reçoit 1000 courts-métrages. On en sélectionne 300, les meilleurs, selon évidemment notre subjectivité, mais voilà, Vincent Prado qui fait la programmation des apéros ciné. Et ces courts-métrages sont en présélection pour le prix du public pour notre festival de fin mai, début juin, où le public, chaque vendredi, vote pour son court-métrage préféré qui part en sélection du prix du public. La mission, c'était aussi de peut-être mettre en lumière le court-métrage, souvent avec une idée un peu préconçue de film peut-être élitiste ou on m'excusera des termes un peu clichés, mais c'est vrai qu'une méconnaissance de ce qu'est le court-métrage.
Justement, qu'est-ce qu'on dit aux auditeurs, auditrices qui n'ont pas l'habitude de regarder des courts-métrages ? Enfin, souvent, les courts-métrages, ils sont diffusés en fin de soirée.
En fin de soirée, si on a loupé le début, exactement. On se dit en fait de quoi il se passe, parce qu'on a un espèce de plan hyper long et on se dit, oh bah les c'est pas possible, je vais rien comprendre. Non, c'est vraiment des pépites. C'est-à-dire que c'est les réalisateurs de demain qui s'essayent à faire des courts-métrages. Ils ne font pas qu'essayer, ils les font. C'est des pépites parce que la durée impartie, généralement, on essaye de ne pas dépasser 25 minutes, même si le court-métrage va jusqu'à 59 minutes. Mais en fait, après, on est dans du moyen, même si c'est un peu une invention. Donc, il faut une efficacité de durée, une efficacité aussi d'histoire, de narration, une pertinence du sujet. C'est aussi un format qui permet d'essayer des idées, les idées les plus, peut-être certaines fois absurdes ou un petit peu dangereuses au niveau de la narration, alors que pour un long métrage, c'est pas du tout les mêmes données. Donc on a des courts-métrages qui sont étonnamment brillants et qui marquent 10 fois plus certaines fois que des longs-métrages. Parce que la thématique doit être exploitée de manière efficace. Et l'efficacité, le cadre qui se resserre du temps et des moyens, évidemment, parce qu'un court-métrage demande quand même, en tout cas, pas la même économie, il n'y en a pratiquement pas. Le long-métrage, c'est une industrie. Le court-métrage, souvent, les producteurs investissent financièrement sur les courts-métrages. Ils investissent sur un réalisateur qui... Voilà, est supposé en fait faire un film brillant qui va lui permettre de faire un long métrage. Et c'est à ce moment-là que l'industrie du cinéma rentre en ligne de compte. Donc le court métrage, c'est un peu la carte de visite du futur réalisateur de long métrage. Et puis aussi le fait de se permettre aussi de pouvoir faire un exercice de style assez rapide.
On a des exemples de réalisateurs, réalisatrices qui sont passés par la case court métrage avant de devenir
tous
célèbres.
Ah mais tous, et même des réalisateurs extrêmement reconnus reviennent au court-métrage. Il y a quelque chose de l'ordre de on le fait maintenant 5 jours, on monte, il y a quelque chose du vif, de l'action. Donc le court-métrage, c'est la base. C'est nécessaire qu'il y ait des espaces de diffusion de courts-métrages pour que les réalisateurs puissent créer, en fait. C'est comme un lieu de répétition pour du spectacle vivant. S'il n'y a pas ces lieux de fabrique, on ne peut pas faire des grands spectacles sur des grandes scènes.
Le tremplin ultime là, pour vous, le Zoom, c'est le festival que vous organisez donc fin mai. On peut annoncer les dates pour 2019 ?
Oui, exactement. 29 mai au 1er juin. Donc 4 jours de festival. Avec cette particularité, pour nous, notre festival s'appelle la Balade des Cours. Donc il y a une soirée qui est programmée dans 4 lieux différents du département et hors département. Donc, c'est-à-dire à Mâcon au Crescent, qui est notre partenaire depuis le départ en diffusion hors les murs. Nous avons le cinéma La Passerelle à Trévoux, nous avons le cinéma L'Horloge à Meximieux et du coup le Zoom à Bourg-en-Bresse. Donc, il y a 4 lieux le mercredi soir. 3 programmes, donc c'est une très belle soirée qu'on va appeler la nuit du cours, où le public va pouvoir venir voir en fait la présélection du public des apéros ciné et pour pouvoir voter pour son film préféré qui va remporter le prix du public. Et ensuite, le jeudi, vendredi, samedi, on est au Zoom en collaboration avec le Cinémateur, hein, qui est aussi notre partenaire depuis le départ et qui fait partie du jury de professionnels qu'on invite pour les autres prix professionnels de la sélection officielle.
On revient sur la partie plutôt spectacle vivant. C'est une partie qui était là dès le début du Zoom ou ça s'est ajouté
depuis le départ. Parce que c'est quand même ça, on est un lieu de résidence artistique professionnelle où les compagnies viennent travailler leur création et présenter leur spectacle, même si c'est une première qui est un peu fragile, c'est de proposer pour qu'il y ait cette date qui permette aussi de prendre le risque d'aller jusqu'au bout et de prendre le risque de la confrontation avec le public. Et ensuite, on est vraiment un tremplin, un démarrage, un facilitateur créatif. Et ensuite, les compagnies sont censées s'en aller, s'envoler sur des plus grandes scènes et des plus grandes structures. Et du coup, c'est vrai que ça a été quand même un choix d'accueillir. On a accueilli plus de 50 compagnies, là, en 6 ans. En revanche, là, avec l'équipe, en 2019, on a décidé qu'on voulait mettre beaucoup plus en lumière le spectacle vivant, puisque le cinéma, je pense que le lieu est identifié, court-métrage, l'image, enfin voilà, je ne dis pas que tout est fait, mais en revanche, c'était important parce que c'était vraiment un dispositif qu'on voulait proposer au public. Et là, aujourd'hui, sur les 3 années, on a envie de mettre en valeur, en fait, les équipes de travail et aussi associer plusieurs artistes aussi pour des projets dans le lieu, que le lieu soit de plus en plus un lieu de fabrique et de propositions.
Et donc un spectacle que vous accueillez prochainement qui s'appelle Ami Ami, donc c'est une création.
Oui, c'est ça. On est une des premières salles à accueillir cette nouvelle création d'Hélène Ventura.
Hélène Ventura, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Eh ben, je suis clown. J'ai écrit un spectacle qui s'appelle Ami Ami.
Comment est-ce qu'on devient clown ?
Par hasard. non, c'est vrai que c'était pas un souhait de quand j'étais toute petite. C'est quelque chose qui m'est un petit peu tombé dessus, mais de façon assez logique, c'est-à-dire que je m'intéressais à la faux théâtre, au cirque, à la musique, et tout à coup ça a pris du sens avec le clown.
Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes clown ?
Bah, ça fait 20 ans.
Et votre dernière création, donc c'est Ami Ami, c'est la 5e, c'est ça ?
C'est ça, ouais.
Et ça parle de quoi alors, ce spectacle ?
Eh ben, c'est l'histoire d'un clown qui cherche des amis et qui va à la rencontre du public en espérant s'en faire un ami.
Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer ce spectacle ?
Je crois que c'est l'envie d'aller vers l'autre et d'explorer un peu cet élan qui est celui de l'artiste et encore plus l'artiste de spectacle vivant, puisque dans le geste de créer un spectacle vivant et donc de le jouer, il y a l'envie d'aller vers l'autre et quelque part de s'en faire un ami, en tout cas de créer une relation forte et vraie avec le public. Donc c'était un peu le désir d'aller au cœur du sujet, d'explorer ce sujet.
Et est-ce qu'il y a un lien aussi avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on a beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux, mais peut-être pas tant que ça dans la vie de tous les jours ?
Je pense que oui. Enfin, c'est-à-dire, je me suis pas dit je vais réagir à ce phénomène de société qu'est Facebook et tout ça. Mais quelque part, c'est une réaction à ça. Et c'est un spectacle aussi sur la solitude, puisque le clown, il a envie d'avoir des amis, que le public soit son ami, mais techniquement le public c'est le public et le clown c'est le clown, donc ça parle aussi de l'impossibilité et la difficulté d'aller vers l'autre.
Qu'est-ce que le clown permet qu'un autre, une autre forme de spectacle ne permettrait pas ? Vous auriez pu faire un stand-up, un one woman show à ce sujet ?
Oui, alors je crois que c'est la dimension très personnelle et le traitement par la poésie. Je crois que c'est un sujet que j'avais envie de traiter d'une façon poétique Et le clown permet ça.
Est-ce que c'est un spectacle qu'on peut voir en famille ?
On peut le voir en famille, mais il ne faut pas être trop petit. Il faut avoir au moins 10 ans.
Mm. Voilà. Donc vous serez à l'auditorium de Pérona le dimanche 7 avril à 17h. Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs et auditrices de Radio B pour leur donner envie de venir vous voir ?
Ben, je leur dirais que à Miami, c'est un beau projet et qu'il faut y croire. et qu'on va peut-être devenir amis. Donc c'est précieux dans la vie. Voilà. Et en même temps, c'est une entreprise... C'est une entreprise risquée et en cela, parce que c'est le clown qui l'a conduit, c'est drôle. Donc, y a toutes ces raisons pour venir.
C'est un spectacle que vous avez déjà tourné ?
Bah, il vient de sortir, enfin il est sorti en janvier. Donc, il est en début de vie.
Très bien, donc c'est le moment aussi de le découvrir et d'en parler autour de nous.
Exactement.
Eh bien, merci Hélène Ventura.
Ben, merci à vous.
Aurélie Marpeau, je rappelle que vous êtes directrice du Zoom. Le spectacle à Miami, on l'a dit, c'est une création. Est-ce que vous l'avez vu ?
Non, pas encore.
Mais vous connaissez le travail d'Hélène Ventura, ouais. J'imagine.
Très bien, et je la suis. Et c'est vrai que j'avais envie de la faire venir il y a 2 ans avec son ancien spectacle. Et je n'ai pas pu le faire. Je trouve que le clown de théâtre, c'est une proposition qui est extrêmement accessible, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où on s'attache tout de suite. Le clown, en fait, on s'attache à lui. Le clown de théâtre parce que il est dans des difficultés et donc il y a quelque chose qui fait écho à nos difficultés à nous. Et c'est vrai que son ancienne création, elle racontait en fait, elle était Cendrillon et elle racontait à sa façon en fait le conte de Cendrillon. Donc vous imaginez, puisque quand même les clowns sont souvent ignobles, ils sont sous couvert de dire qu'ils sont bienveillants, ils le sont pas du tout. Et donc ça fait écho à notre part sombre qu'on essaye de pas de gommer. Mais qu'on essaye de nuancer, qu'on essaye de transformer tant bien que mal. Et c'est vrai que les clowns nous donnent la possibilité de rire de nous et de l'humain, de l'humanité.
C'est à l'auditorium de Pérona ?
Oui, l'auditorium de Pérona. Voilà, on prend un risque. D'abord, l'équipement est un joli équipement à Pérona, qui a un potentiel. Donc c'est aussi pour sentir un petit peu aussi comment nous, l'équipe, sortir. Ça nous fait du bien de sortir hors les murs.
D'autres spectacles prévus, alors c'est pas tout de suite, c'est à la rentrée. Mmh. Mais on sait jamais, les agendas se remplissent très très vite. Deux temps forts, le cabaret Burlesque Queer, oui. C'est en lien avec le festival T'en veux encore ?
Avec Groupe Nuit, exactement. Okay. Superbe proposition, une semaine de résidence. C'est une résonance. Voilà, la compagnie, du coup, a eu envie de faire des résonances artistiques autour du temps fort du festival. Donc c'est sûr que quand on nous a proposé de pouvoir créer un événement, enfin en tout cas d'accueillir avec grand plaisir, que les artistes puissent s'approprier le Zoom pour créer leur événement et qu'on puisse être un facilitateur d'une idée artistique, enfin, pour moi en fait c'est exactement notre mission. Voilà, la mission n'est pas forcément de faire une programmation, mais en revanche de proposer une programmation parce qu'il y a des envies et qu'il y a une envie de s'approprier le lieu qui est un peu atypique. On n'est pas une salle de fête, on n'est pas une salle de spectacle conventionnée. Enfin, voilà, on est un peu entre les deux. Donc je trouve que c'est le moment en fait de pouvoir, en tout cas, imaginer des choses dans ce lieu.
Est-ce qu'un des objectifs, c'est d'accueillir plutôt des compagnies locales ou pas forcément ?
Ah, les deux. Les deux, avec évidemment le local, ça veut dire qu'il y a une facilité d'accueil et puis de budget. Parce que quand on est accueilli à 500 km, l'hébergement, les repas, c'est pas du tout la même chose. Donc évidemment, les compagnies de l'Ain, elles sont mais les bienvenues plus que les bienvenues. Et en revanche, c'est aussi comment est-ce que d'autres compagnies d'ailleurs peuvent venir et comment en fait des liens peuvent se faire aussi. C'est aussi ça. C'est ça qui est aussi intéressant parce que aujourd'hui, on décentralise les frontières là. On en est d'accord. Il y a plus de frontières. Donc c'est comment on sort de nos territoires aussi, d'une certaine manière, qu'on sort. Voilà, c'est aussi ça du territoire. Il y a le bon côté de la médaille, puis un peu le revers. Donc c'est vrai que il faut que les compagnies de l'Ain puissent s'approprier le Zoom. Évidemment, c'est leur lieu. Et aussi, peut-être que comme le groupe Nuit, là, c'est ce qui nous a plu aussi dans ce projet, c'est qu'ils font venir des artistes d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire que l'Ain est mélangé.
Un lieu de rencontre.
Bah oui, et c'est comme ça que des projets se font, et qu'il y a des rencontres artistiques, et que d'un seul coup, il y a un comédien du département qui va aller travailler avec une compagnie à Rennes. Et du coup, c'est là où le réseau et les transversalités géographiques se font.
Une autre compagnie qui viendra cette fois-ci au mois de novembre, c'est la compagnie Le Manège du Désir, pour un spectacle dont vous allez nous parler. Ça s'appelle Sous ma peau.
Exactement. Alors c'est Geneviève de Kermabon qui va nous proposer un seul en scène, une multitude de portraits de femmes, qui démarre avec des interviews d'une ancienne prostituée. Et tout ce qui peut être en rapport avec la sensualité, l'érotisme et la femme. Donc ce n'est pas un spectacle documentaire sur la prostitution, mais plus comment cette femme qui a été au quotidien avec sa féminité, l'appropriation et l'image, du coup, entre ce qu'on monte en tant que femme, ce qu'on est sous la peau d'une femme. Et c'est une circassienne, donc il y a quelque chose aussi en rapport avec le corps. Et puis voilà, il y a quelque chose sur l'érotisme et la sensualité. Donc ça promet d'être extrêmement... qualitatif à plein de niveaux. Voilà, c'est vraiment une très grande comédienne.
J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes là dans cette programmation 2019. Est-ce que c'était une volonté ?
Eh bien, non. Parce que je vous dirais oui, du coup, non, pas du tout. En fait, en plus, on demande souvent en fait la parité, même pour les dossiers de subvention. Et souvent, je me dis, mais mince, alors là, il y a un spectacle avec des femmes, et du coup, le metteur en scène, c'est un homme. Du coup, hyper compliqué. Et là, c'est hyper drôle parce qu'en fait, ça a été dans une envie spontanée de programmation et de rencontre. Et là, cette année, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup de sujets de femmes. C'est cette année, en plus, avec les chemins de la culture, c'est femmes. Et c'est pas du tout fait exprès. Donc je me dis que quand même, certaines fois, on peut être en accord sans...
C'est ça. Et puis comme quoi, il est possible aussi laisser de la place aux femmes dans les programmations.
Et c'est vrai que je m'étais fait souvent la remarque en me disant, voilà, il y a quand même beaucoup de projets portés par des hommes. Et en même temps, du coup, c'est aussi la question qui se pose à un moment, si le spectacle est de qualité. Et c'est aussi des rencontres. Donc à un moment, si c'est un peu déséquilibré sur le pourcentage d'hommes ou de femmes dans la programmation, ça remet un peu les compteurs à zéro. Hein. Donc c'est bien.
Aurélie Merpeau, merci. Je rappelle que le spectacle Ami, c'est le dimanche 7 avril à 17h à l'auditorium de Perona. C'est mieux de réserver ?
Oui, s'il vous plaît, réservez et venez découvrir cette artiste. C'est une artiste qui a vraiment été extrêmement reconnue au Festival d'Avignon et qui a fait le Festival de Montreux. Donc c'est vraiment une artiste à découvrir. On a beaucoup de chance qu'elle ait accepté de venir dans les premières de sa nouvelle création. C'est un très joli moment, donc venez l'accompagner et peut-être devenir son ami ou pas.
Merci.
Merci Élodie.
Le spectacle Ami, c'est le dimanche 7 avril à 17h à l'auditorium de Perona. Il est conseillé de réserver dès maintenant. Elle fait partie du top 5 des artistes norvégiennes à suivre. Montez le volume, faites de la place autour de vous et c'est parti, Groovy Baby. C'est Lil Halima et le titre Take Me to Your Planet. I got no plans today. Same things as yesterday. They say I'm too old to play. You're an adult now. Nothing more to say. If I'm being honest. So pick me up in
keep your secret. You ain't gotta lie to me, babe. Don't waste our time. I know about your star sign, so you can't really lie to me, babe. If I'm being honest,
sur Radio B 90 FM. Il est temps de prendre vos agendas en main. Voici notre sélection des dates à ne pas rater le mois prochain.
Ce mercredi soir, Tristesse et joie dans la vie des girafes. Un joli titre pour une pièce de théâtre jeune public, mais pas que. C'est ce soir au Théâtre de Bourg à 20h.
Vendredi, le 29 mars, à La Tannerie, ambiance détendue avec le groupe de reggae Naksuko et Mu. Et des stands éthique et bien-être, artisanat et restauration indienne. L'occasion de finir la semaine de bonne humeur. Et toujours des places à gagner sur Radio B pour vous et l'invité de votre choix.
Et n'hésitez pas à aller voir le programme du mois d'avril de La Tannerie. Il est très fourni et très intéressant, notamment le mercredi 3 avril, Slift, groupe de rock psyché. Moi j'adore, ça va faire la troisième fois que je vais aller les voir. Quand on aime, on ne compte pas. Et en plus, c'est gratuit.
Et le 20 avril, c'est toi, Anaïs, et ton groupe, hein, une soirée Fakir et Gru. Tu nous dis quelques mots sur ce groupe, Gru.
Oui, alors déjà les Fakirs, nos collègues de concert, c'est du rock noise, guitare, batterie. Et nous, Gru, alors nous sommes quatre, nous faisons du... En tout cas, nous essayons de faire du garage punk, tout ça. Venez voir...
Ok, c'est la deuxième date à Bourg-en-Bresse.
C'est ça, la deuxième date tout court. Ah non, ça sera la troisième, on aura joué à Lyon entre-temps.
Super, donc à noter le 20 avril. Et le festival 7 bis Chemin de Traverse, le rendez-vous culturel tourné vers la création sous toutes ses formes avec résonance contemporaine, c'est jusqu'au 14 avril un peu partout sur le territoire. Et puis le 4 et 5 avril, il ne faudra pas manquer Yolande Moreau et Christian Olivier qui interprètent Prévert en musique au Théâtre de Bourg. Et puis rendez-vous sur le site de la ville de Bourg pour les activités à proposer à vos enfants pour les vacances. La Fabrique, c'est fini pour aujourd'hui. Le mois prochain, on parlera du printemps de Bourg. Merci Anaïs pour ce comeback.
Merci de m'avoir accueillie.
Merci à Pauline à la réalisation. On retrouve Théophile et son émission Shell and Peel. Ce soir, il s'attaque à la pop. Vaste programme.
Restez sur nos ondes à 19h vent d'Est. Marie et Gérard, je suis un peu familière, vous emmènent en voyage musical de la Bretagne à l'Iran en passant par le Cameroun. Et à 20h, toujours sur le 90FM, rendez-vous avec Raymond et les musiques de l'océan Indien.
Belle soirée sur Radio B, n'oubliez pas d'être curieux.